Bien, Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2015, puisque nous sommes au début du mois de janvier de cette année. Je parlerai aujourd'hui de saint Thomas d'Aquin, né en 1224 et décédé à 50 ans seulement en 1274. Après l'exposé sur les cathares, il eût été normal de continuer par la description de la lutte contre cette hérésie de la part de la société civile et de la société religieuse qui se trouvaient menacées. Cela conduit tout naturellement à s'intéresser aux ordres mendiants apparus à la même époque, et de s'intéresser à leurs deux fondateurs, saint Dominique et les frères prêcheurs, et saint François d'Assise et les frères mineurs. Une des figures les plus attachantes reste saint Thomas d'Aquin, qui fait encore autorité dans le domaine intellectuel, ce qui est rare pour un personnage du XIIIe siècle. Ce domaine est tellement profond que je m'y suis englué. Aujourd'hui, je ne parlerai guère que de lui. Il était issu d'une noblesse modeste mais fort ancienne. Ayant choisi la vocation sacerdotale, ses parents le destinaient à la prodigieuse abbaye du Mont-Cassin plutôt qu'aux ordres mendiants qui venaient de naître. À 19 ans, il fut astreint à rester au cœur de sa famille jusqu'en 1245. À 21 ans, il put alors prendre la route de Paris et de son université, qui était considérée comme le phare intellectuel du monde. L'apparition des ordres mendiants se situe à un tournant historique. La féodalité était à son apogée, elle s'était bâtie autour d'une économie domaniale. Comme le domaine féodal, le monastère bénédictin avait ses propriétés, son activité commerciale, si l'on peut dire, dans le sens noble du terme, ce qui lui donnait une autorité incontestable sur des territoires parfois étendus. Les moines ont joué un grand rôle dans la mise en valeur du sol de la France. La richesse de certains monastères faisait des envieux. Les moines sont pauvres, mais le monastère est riche, disait-on. Toutefois, le monastère organisait les écoles, les dispensaires, les hôpitaux. Tous les jours, les moines de Cîteaux distribuaient plusieurs milliers de repas aux nécessiteux. Ils étaient aussi des centres d'études, des foyers d'art, et gardaient soigneusement les trésors qui avaient survécu aux invasions barbares. Cela dura deux siècles. Le changement eut lieu au XIIIe siècle. Le pouvoir du pape était mis en question pour les grandes dynasties, Italie, Allemagne, France, Espagne, et le pouvoir du seigneur, qui était parfois un évêque, remis en question par les communes et l'apparition des corporations. Le roi de France était loin d'être opposé à cette évolution qui affaiblissait des vassaux parfois trop prétentieux. La bataille de Bouvines témoigna du soutien populaire à la couronne. C'est dans cette atmosphère que naquirent les ordres mendiants qui tenaient à rejeter l'étalage de richesses. Plus de monastères majestueux, mais des bâtiments pauvres dans des faubourgs estudiantins à la charge de généreux protecteurs. Comme l'a dit un historien, la pauvreté mendiante devint l'asile économique d'un apostolat itinérant. L'autorité n'est plus celle d'un père nommé à vie, mais celle d'un supérieur périodiquement renouvelé. La pauvreté, c'est le refus du régime féodal, des bénéfices, de la perception de la dîme, toutes choses qui seront confisquées avec le système de la commande qui donna tout bénéfice aux laïcs et aboutit à la ruine quasi totale des monastères à la veille de 1789. Pour vivre, on s'en remet au Seigneur Dieu. Il a quand même fallu adapter cette pauvreté aux besoins inhérents à la vie d'une communauté et aux exigences fiscales de l'État. Elle n'a jamais été absolue. Les couvents s'installent donc en pleine ville. De nouveaux étudiants arrivent dans une université qui évoluera un peu comme une corporation. Ils ont leur propre coutume, les étudiants. Ils se manifestent par une soif de connaissance. Selon la règle bénédictine, les moines sont tenus au travail manuel et à la divine lecture, avec pour but l'adoration sans discussion ni vaine curiosité. Il n'en est pas de même chez les dominicains, qui cherchaient à développer l'exercice de l'intelligence au service de la foi. En 1200, en 1200, Paris est devenue l'école des écoles. Le four où cuit le pain spirituel du monde, comme disait un pape, qui ajoutait « Ailleurs, on allaite les nourrissons, ici on alimente les esprits robustes ». Saint Thomas d'Aquin arriva à Paris, derrière Saint Albert, en 1245. Le dessein d'Albert était de rendre la science et la raison grecque, personnifiées par Aristote, intelligibles au latin, qui, derrière Saint-Augustin, en était resté à Platon. Le grec n'était guère pratiqué chez les latins, ce qui leur valut d'être traités de barbares par les orientaux. Il fallait donc se reporter aux manuscrits écrits en grec ou en arabe, car ils avaient été traduits par des Syriens chrétiens un siècle ou deux avant la naissance du prophète. Ça n'a rien de musulman. Soit dit en passant, les musulmans n'ont rien à voir dans cette affaire. Saint Thomas est resté à Paris avec Saint Albert de 1245 à 1248, puis le suivit à Cologne de 1248 à 1252. L'intervention d'Albert le Grand a dès le début insisté sur le caractère philosophique et scientifique de ses études. Il a en quelque sorte fixé le statut des sciences dans la chrétienté. La théologie est la transmission d'un message. Dieu s'est fait homme et nous parle en homme. Ses paroles contiennent la vérité de Dieu et on peut philosopher, c'est-à-dire discuter ses paroles pour en scruter la profondeur. Il y a un appétit de l'intelligence et de la foi nourrit l'intelligence. Saint Thomas a dit, dans la ferveur de sa foi, le chrétien aime la vérité qu'il croit. Il la trouve et la retourne, et la tourne et la retourne dans son esprit. Il l'embrasse en cherchant tant qu'il peut des raisons à cette cogitation et à cet amour. L'ensemble des raisons couvre en fait tous les acteurs de notre intelligence, tous les secteurs de notre intelligence. Analyse, jugement, définition, comparaison et autres opérations caractéristiques de la science. Pour saint Thomas, la théologie est solidaire du mystère du Verbe fait chair. Là seulement, on peut trouver une audacieuse confiance dans la cohérence de la foi et de la raison. Cette position n'était guère appréciée des frères mineurs. C'est mêler de l'eau du vin à la parole de Dieu, dit saint Bonaventure. Ce à quoi Thomas répondit, ce n'est pas l'eau au vin, mais convertir l'eau en vin. Ce n'est pas mélanger l'eau au vin, mais convertir l'eau en vin. La raison et la philosophie restent servantes de la divine doctrine. Thomas est docteur et saint. Aux vérités de la foi qui ne deviendraient perceptibles que dans la vision de Dieu même, la raison humaine trouve un accès par des analogies dans lesquelles l'esprit trouve une extrême complaisance. Qui poursuit l'infini avec ferveur progresse, même s'il n'arrive pas à ses fins. En résumé, non, la curiosité comme la science n'est pas un vilain défaut, c'est la noblesse matérielle de notre esprit humain. La contemplation. Une nuit, saint Thomas réveilla son secrétaire en pleine nuit afin de l'aider à transcrire par écrit un commentaire qui lui était venu à l'esprit en priant. Cela pose le problème de la contemplation. En effet, si la contemplation sera, peut-on dire, l'occupation essentielle de notre vie éternelle, à quoi peut servir la théologie ? Certains franciscains allaient jusqu'à la juger inutile, voire superflue. La contemplation, c'est se placer en face de Dieu dans un sentiment filial de foi et d'amour. Mais doit-elle rester entièrement passive ? Saint Thomas précise que la vie contemplative se doit d'éviter aux chrétiens de sombrer dans une hypertrophie de la vertu de religion, de s'éloigner des détresses des sociétés humaines, de rester comme inerte, de ne plus saisir les occasions d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle, un peu comme les stylites. Il y a une certaine analogie avec notre monde des 19e et 20e siècles, où les bien-pensants, les talas, cherchaient certes la fidélité, mais sans soif d'évangélisation, sauf pour les missionnaires. Ils se contentaient d'une religion de conformisme sociologique, de légalisme rituel, de moralisme. Il faut suivre la religion de son milieu, comme j'ai entendu dire. Nous sommes loin du culte en esprit et en vérité que le Christ a prêché à la Samaritaine, laquelle s'est précipitée dans sa ville pour le faire savoir. La théologie nous aide à éviter cet écueil de religiosité quasi infantile. Elle se développe à l'intérieur de la contemplation pour atteindre l'intelligence du texte sacré, terre nourricière de notre foi. Pour saint Thomas, il n'est pas de plus grand signe d'amour que d'aller contempler. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Mais, ajoute-t-il, la délectation contemplative ne doit pas éloigner du devoir de servir Dieu dans nos frères. La foi nous entraîne, mais la philosophie aide l'esprit à s'y mouvoir. Le dogme et la morale se fondent dans cette unité spirituelle. Enseigner est une action. Il faut à l'apôtre aller profondément dans la connaissance de Dieu pour la communiquer efficacement. L'amour ne saisit son objet que moyennant une certaine connaissance, donc grâce à la théologie. L'image de l'échelle de Jacob, sur laquelle les anges montent et descendent sans cesse entre ciel et terre, dans la joie de la divine contemplation, en est une illustration. En définitive, la théologie conduit à la contemplation. Aristote avait déjà noté que certains hommes fortunés parvenaient à mettre en action ce que nous appelons les dons du Saint-Esprit grâce à une heureuse psychologie. Le contemplatif, uniquement consacré à la contemplation, est en grand danger d'oublier le salut du monde et le bien commun que saint Thomas d'Aquin met au-dessus de la perfection individuelle. On pense aux stylites qui restaient pendant des années sur le haut d'une colonne, avec comme unique lien avec le monde une corde reliée à un panier où les passants déposaient quelques pitances. Saint Thomas a dit nettement que la délectation contemplative ne doit pas éloigner du devoir de servir Dieu dans ses frères. Saint Dominique avait ramené l'office choral à un moyen au service de la foi apostolique. Il n'était plus essentiel. Un dernier point important est l'obéissance qui, bien sûr, a pour conséquence la soumission envers les autorités légitimes dans leur domaine et respectueux des lois divines, telle est nécessaire pour réaliser le bien commun. Notons que saint Luc a dit, au chapitre 2, que Jésus était soumis à ses parents. La Vierge Marie, en parfaite femme juive, était soumise à saint Joseph. Si bien que dans la Sainte Famille, l'ordre de soumission était exactement inverse de celui de la dignité. La condition subalterne n'a donc rien de déshonorant. D'ailleurs, le Christ a dit, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». La condition subalterne est au service du bien commun, auquel la volonté du supérieur est elle-même soumise. Dans son cadre légitime, l'ordre d'un supérieur doit être suivi comme s'il émanait de Dieu lui-même, même si nous sommes persuadés qu'il pourrait être meilleur. Recherche de la vérité, évangélisation, recherche du bien commun, obéissance. Saint Thomas est décidément indispensable à notre époque. Il semble bien que ce soit l'avis du pape François. Je vous souhaite encore une bonne année et à bientôt au mois de février pour la suite de nos élucubrations.